Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Pour notre 60e émission, je vous propose les cagots parias de nos terres. Alors, dans le sud-ouest, jusqu'aux portes de Toulouse, le Poitou, la Guyenne et la zone franco-espagnole du Béarn, Pays Basque, Asturies, Navarre et Léon, les cagots ont tenu une place importante et joué un rôle considérable depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Combattus avec fanatisme, ils ont toujours été considérés comme une race maudite qui finira par disparaître. Alors, d'où vient le nom de cagots ? On recherche les origines chez les Visigoths, les Goths étant traités de chiens en occitan. D'ailleurs, ça se dit can, d'où can des Goths, voire cagots. Cagots signifie malade, atteint du mal, la lèpre. Leur sort fut conditionné par les vues de l'esprit, croyances sans fondement, préjugés tenaces et immuables. Guy de Chauliac, en 1326, pour la première fois, décrivait les cagots, yeux ronds et exorbités, regards méchants et lugubres, sourcils presque absents, nez large, grosses lèvres et une puanteur incroyable. Il les a donc catalogués comme des lépreux. Ils étaient bien sûr donc considérés comme des lépreux. Un grand nombre ne l'étaient pas. La lèpre blanche de quelques-uns n'était pas dangereuse, pas contagieuse. Dans les langues indo-européennes, cac signifie mauvais, grossier, malade, haïssable et dangereux. En Bretagne, cac, oc ou cacle, od, peut dire ladre dans la classe instruite. Le lépreux se disait normalement caqueux. D'autres historiens les font descendre des Arabes, des Cathares, des Ariens. Les sentiments des populations pour les cagots deviennent des sentiments racistes, sentiments aveugles de mépris, de méfiance, de haine et de supériorité. Rabelais, lui-même, employa le terme de cagot dans un passage de Gargantua au sujet de l'abbaye de Thélème, avec sa porte interdite aux hypocrites, bigots, cagots. Ces sentiments vont se fortifier de siècle en siècle. On trouvera les raisons les plus futiles. Ils vont porter sur eux toutes les misères du monde. Et l'on sait combien le XIVe siècle est rempli de malheurs. Comme dans tout racisme, le reprouvé est marqué dès sa naissance, et à jamais par le péché originel. Ainsi, les cagots, quand ils entraient dans une ville, au jour et heure où ils pouvaient entrer, ne devaient pas toucher les marchandises ou le bétail. Ils devaient les signaler aux marchands par une baguette de bois. Quoi de plus pur qu'un morceau de frêne ou de saule ? Le bois ne transmettant pas la maladie. Il était interdit pour eux de toucher de l'eau. Il y avait dans les villages une fontaine réservée aux cagots. Ainsi, la fontaine Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre ou la fontaine des cagots à Agetmo, dans les Landes. De même, posséder du bétail leur était interdit, d'exercer certaines professions, mais aussi de se marier avec des non-cagots. Les cagots n'étaient pas autorisés à marcher les pieds nus. Ils ne devaient pas porter une arme et combattre. L'entrée dans les églises se faisait par une petite porte afin qu'ils s'y inclinent. Et ils restaient dans un coin, au fond. Pour ceux qui souhaitaient communier, l'hostie leur était présentée au bout d'un bâton et ils doivent porter des vêtements de couleur rouge. Une patte d'oie ou de canard cousu sur le veston. Pourtant, seuls les lépreux agiteront une crécelle. En 1604, sous Henri IV, les cagots de Naï sont interdits de vente de marchandises. Leur statut est inférieur à celui des animaux. Ils n'ont pas le droit d'avoir un nom de famille. On les désigne par un prénom suivi du nom de cagot. L'explication sur leur origine est parfois relatée dans des anciens écrits médicaux par leur consanguinité, s'ajoutant la lèpre, l'hypothyroïdie, l'ensemble aboutissant à un état génétique et physiologique de crétinisme. On se rapproche ainsi du terme de crétin qui les a suivis. Les cagots vivent en bordure des villages et sont autorisés à pratiquer des métiers, du bois et du fer. Ils se montrent très habiles dans la construction de charpentes, comme celle du château de Montaner dans les Pyrénées-Atlantiques, commandée par Gaston Phébus, qui les a traités humainement, signant avec eux un contrat, les considérant comme des partenaires, les exemptant de l'impôt en contrepartie. À Montaner, 88 charpentiers ont œuvré, y cuisant 100 000 briques par an, et seuls les cagots ou crestias étaient capables d'exécuter un tel ouvrage. De même, les cagots vont réaliser la halle de Campan, dans les Hautes-Pyrénées, patrimoine historique. On sait qu'ils ont participé aux équipes ayant construit la charpente de Notre-Dame, ainsi qu'à la construction du château de Pau. Les femmes sont en général tisserandes, sages-femmes, guérisseuses. Les cagots furent aussi charbonniers, ramoneurs, cordiers, ce sont eux qui dressaient aussi les bois de justice, c'est-à-dire les potences. Ils devaient aussi faire et utiliser ces instruments de torture comme l'impliquait le titre de bourreau. Ainsi, à Pau, un cagot nommé Pierre de Pomata, charpentier, présente au Parlement une facture pour avoir appliqué la question à un prisonnier détenu à la conciergerie. En 1733, les jurats de Pau désignent d'office trois cagots charpentiers pour servir aux exécutions durant l'année. Par déduction, les bourreaux du Christ ne pouvaient être que des cagots. Ce sont eux qui ont fait la croix. Le cagot devient ainsi plus haïssable que le juif. les médecins du Moyen-Âge ne sont pas d'accord quant à la contagiosité du cagot. Certains conseillent un traitement de balnéothérapie. Et d'ailleurs, une source de Cotteret coulait en 1665 pour les lépreux et cagots. Il y a dans tout cela des légendes. Est-ce suffisant pour écrire l'histoire? Le pied d'oie a été choisi comme emblème des cagots. La couleur rouge rappelle la lèpre rouge. À l'origine du signe distinctif, à afficher sur la poitrine de chacun. Nous nous devons de relater ces récits légendaires. Celui de la reine de Saba, venant chercher et venant rendre visite au roi Salomon. La reine montre ses pieds palmés. La reine P, doc, pied d'oie en occitan, était la reine épouse du roi Wisigoth de Toulouse, qui s'inscrit dans la légende de Toulouse. Elle nageait tous les jours dans la Garonne. Cette reine légendaire apparaît bientôt comme leur symbolique souveraine. Tout cela explique que tant d'éléments raciaux, de provenances diverses, aient pu être facilement confondus chez nous, fondés sur les griefs contre juifs, arabes, goths, ceci proféré par le noble sang des Francs. Ainsi, le pape Étienne apprena le mariage de Charlemagne avec Berthe, surnommée Berthe au grand pied, pour sa difformité, lui conseilla de ne point consommer le mariage, pour ne point souiller le très noble sang des Francs, qui excelle au-dessus des autres. Berthe étant assimilée à cette légende, car fille de Didier, roi des Lombards, les Lombards traités par le pape de perfide, puant, dont la race des lépreux tirait leur origine. Au théâtre, Molière lui-même, dans Le Tartuffe, acte 1, scène 1, emploie ce mot de cagot. « Quoi ? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique ?» Quelques cagots sont restés célèbres. Peyrolet, qui fut l'architecte entrepreneur des travaux de Montaner. De même, Bertuquet de Carré-sur-An. Jean de Tran. Jean Dufresne de Navarreix, directeur du Trésor sous le Consulat. Les Fachans de Saint-Lary étaient puissants, considérés comme chefs des cagots de la Vallée d'Or. La Révolution française permit aux cagots de devenir de véritables citoyens par l'édit de Versailles, de même pour les protestants et les juifs. Au XIXe siècle, le mot de cagot restera une insulte, comme crétin, idiot de village, bigot ou goitreux. L'observation de la Société anthropologique de Paris en 1867 sur les cagots ne montre aucune difformité. Et aujourd'hui, il n'existe plus aucun cagot. Alors les ouvrages s'intéressant aux cagots sont nombreux. J'ai consulté deux ouvrages de référence. Jean Le Cagot, maudit en terre d'oc. Toulouse, 2012, chez Privat, de Jean-Jacques Rouche. Histoire des cagots, race maudite, d'Osmain Rico, 1969. Et je vous invite à visiter le musée des cagots au château de Nest, à Arreau, dans les Hautes-Pyrénées. Site unique en France. Et je vous souhaite une bonne écoute et au mois prochain pour notre 61e émission d'Un brin d'histoire. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.